menu ce matin, démarrage dans la matinée d'aujourd'hui à Matadi, dans le Bas-Congo, du tour cycliste de la RDC. L'enjeu pour le comité organisateur consiste à parcourir 900 km compris entre Matadi, Songololo, Kimpese, Inkisi, Kinshasa, Massimanimba et Kikwit. Cette activité a coûté au gouvernement congolais 1 million de dollars. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, maladie génétique de l'hémoglobine à la base de l'anémie SS. La directrice du programme national qui gère le secteur appelle les politiques congolais à prendre en compte ce problème de santé dans leurs priorités. Par la bouche du ministre des Affaires étrangères, le gouvernement exige du gouvernement indien la libération immédiate et sans condition des étudiants congolais arrêtés depuis samedi dernier en Inde. Bonjour à tous. Ouvrons tout de suite par le sport. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo donne ce matin à Matadi dans le Bas-Congo le coup d'envoi de la première édition du Tour cycliste de la RDC. Une soixantaine de coureurs composent le peloton, dont 34 viennent de 8 pays d'Afrique et 2 de France. Kanish Mukongo.
Ce tour répond au souci du gouvernement d'améliorer l'image de la RDC à l'extérieur, selon le Premier ministre. Et pour réussir les paris d'organiser ce tour dans cette période de basse conjoncture économique, la Fédération congolaise de cyclisme, sans sponsor, a dû faire appel à l'État principal bailleur de fonds du sport national. Grâce à un chèque de près d'un million de dollars américains, les organisateurs ont mis les petits plats dans le grand en invitant le coureur du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, d'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie, du Congo-Brazzaville pour l'Afrique. La France est aussi présente à ce grand rendez-vous à travers deux de ses athlètes et pour bien faire les choses, Francis Ducreux, promoteur et organisateur des épreuves cyclistes sur les continents, apporte chaque jour à la partie congolaise son savoir-faire. Ce tour de la RDC appelé aussi le tour de l'unité est l'occasion pour les pays d'offrir aux yeux du monde ces magnifiques paysages. Mais avant de penser à pérenniser cette épreuve dans le temps, l'enjeu aujourd'hui pour les comités d'organisation est de réussir à parcourir le 900 km compris entre Matadi, Songololo, Kimpese, Inkisi, Kinshasa, Massimanimba et Kikwit. Une réussite de ce tour les ferait entrer dans le calendrier africain à l'instar de celui de Burkina Faso et les autres.
J'ajoute qu'en rapport avec cet événement, Radio Okapi reçoit ce matin Célesté Mayala, directeur technique et président de la commission technique du Tour cycliste de la RDC. La communauté internationale célèbre ce mercredi 19 juin 2013 la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cette affection, communément appelée anémie SS, est une maladie génétique héréditaire de l'hémoglobine. Selon le programme national de lutte contre la drépanocytose, la République démocratique du Congo enregistre chaque année 20 000 nouveaux cas. 2 à 3% de la population est drépanocytaire et 30% des personnes portent le trait drépanocytaire AS qui est à la longue à la base de l'anémie SS. Seulement voilà, sur le terrain, on ne voit pas des actions d'envergure susceptibles de réduire ou d'éradiquer cette maladie. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Voici la réponse de la directrice du programme national de lutte contre cette maladie, Patricia Foto, et au téléphone avec Jocelyne Moussaoupondé.
Cela demande d'abord une volonté politique. Il faut d'abord au niveau national qu'il y ait une volonté politique par rapport à la maladie. Il faut qu'il y ait un peu plus d'intérêt par rapport à ce qu'on a comme priorité à la maladie. Évidemment, nous sommes dans un pays post-conflit. Nous comprenons que nous avons des urgences, nous avons des problèmes un peu plus prioritaires. Mais la drapanocytose devrait aussi être prise en compte. C'est un problème d'abord de volonté politique, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait l'appropriation de ce problème tant au niveau national, de la communauté aussi, et aussi au niveau des partenaires qui œuvrent dans le ministère de la Santé.
Venons-en maintenant à la réaction du gouvernement congolais suite à l'arrestation des étudiants en Inde. Kinshasa exige à ces sujets du gouvernement indien la libération immédiate et sans condition de ces étudiants arrêtés depuis samedi dernier. Dans une note verbale de protestation remise hier à Kinshasa à l'ambassadeur indien RDC, outre cette libération, le gouvernement congolais recommande aussi qu'il y ait un contrôle médical sur chacun de ces étudiants pour certifier leur état de santé. En plus, le gouvernement exige des poursuites devant la justice indienne contre les auteurs de ces actes de violence sur les étudiants congolais, civils ou policiers soient-ils. Enfin, Kinshasa exige du gouvernement indien des excuses au peuple congolais tout entier. Le vice-ministre congolais des Affaires étrangères, Célestin Tundaya Kassende, qui a convoqué l'ambassadeur indien hier, l'a dit au téléphone d'Innocent Olenga.
Depuis que le gouvernement de la République démocratique du Congo a été informé de cette malheureuse situation, notre ambassadeur en Inde s'est fait recevoir par le ministère indien des Affaires étrangères, auprès duquel une note exhaustive de protestation a été déposée. Et aujourd'hui, toujours notre ambassadeur, mais cette fois-ci avec d'autres ambassadeurs africains, sont allés également au niveau du ministre indien des Affaires étrangères pour réitérer les mêmes protestations. Cet avant-midi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, je viens de recevoir l'ambassadeur de l'Inde, à qui nous avons remis également une note verbale officielle pour protester contre la situation qui s'est passée à l'égard de nos étudiants en Inde. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exige la libération immédiate et sans condition de tous nos étudiants qui sont en état de privation de liberté aujourd'hui en Inde.
En plus bref, les juges de la Cour pénale internationale ont reporté au 10 février 2014 les audiences de confirmation des charges dans l'affaire Bosco Ntaganda. L'ex-chef de la rébellion du M23 est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. Pour mémoire, en mars dernier, ce chef milicien s'était rendu volontairement à l'ambassade américaine à Kigali au Rwanda, d'où il avait été transféré à La Haye. Justice encore, mais cette fois à l'Équateur. Le collectif des avocats des présumés insurgés du MLIA exprime son désaccord quant à la procédure du jugement rendu par le tribunal militaire de garnison de Mbandaka au mois de mai 2010. Ils estiment avoir été trompés par le tribunal qui a condamné les prévenus sur base d'une liste au lieu de prononcer le jugement pour chacun des prévenus. De ce fait, ce collectif des avocats demande que ces protégés arrêtés depuis avril 2010 soient relâchés. À l'audience organisée le 13 juin dernier, ses avocats ont présenté un mémorandum unique pour déplorer ce comportement devant la cour militaire qui siégeait au second degré. Maître Nerfi Mopila, un des membres du collectif des avocats des présumés insurgés Emelia, au micro de Ghislaine Ntobo.
Nous sommes allés en appel. Quoique il a rendu un jugement, or le juge du premier degré a dressé une liste de gens dont 13 personnes ont été condamnées à la peine capitale, 9 personnes ont été condamnées à 20 ans de sûreté pénale, 10 personnes à 10 ans de sûreté pénale et 4 acquittements. Malheureusement, le juge nous a trompé, non seulement les avocats de la défense et les ministères publics, en violant les dispositions de l'article 265, 274 et 275 du Code judiciaire militaire. Et quand nous sommes allés en appel, on devait faire un débat sur un jugement qui existe. Or, il n'y a aucun jugement qui gît dans les dossiers. Il n'y a qu'à la cote 414, vous allez trouver cette liste-là qui est dressée par les juges. Jusqu'à preuve du contraire, tous ces membres-là qui sont arrêtés inutilement, qu'on appelle inélés, n'ont jamais été condamnés. C'est pour ça que nous avons déposé un mémoire unique pour dénoncer ces comportements-là.
Joint par nos soins, le premier président de la Cour militaire de l'Équateur, le colonel Joseph Mokako, a dit que ce mémorandum étant un document judiciaire, la Cour souhaiterait y répondre par un arrêt à l'audience prévue aujourd'hui mercredi. Faisons à présent un tour par le nord du Katanga où le chef de poste d'encadrement administratif appelle à la scolarisation des enfants de Bendera, localité située à 120 km au nord de Kalemi. Il demande aux parents de profiter des nouvelles structures construites par l'UNICEF dans la région pour réduire le faible taux de scolarisation des enfants dont des centaines passent leur temps dans les sites miniers d'or. Il faut dire que cette situation a préoccupé les autorités de cette entité du Katanga au cours de la période qui s'achève. François-Xavier Mibé, vous êtes à Kalemi pour Radio Okapi.
Cette préoccupation, le chef des postes d'encadrement administratif de Bendera l'a exprimée à la délégation des humanitaires parvenue sur les lieux. Gédéon Kakuji Kalama projette peu avant la rentrée scolaire prochaine la fermeture des carrières de l'exploitation artisanale de l'or proche des établissements scolaires.
Moi, j'ai une action de demander aux carrières proches des établissements scolaires de disparaître, que les parents aillent chercher de l'eau, les enfants aux écoles. Ça a comme conséquence un taux élevé de déperdition scolaire. Il est en train de sensibiliser les parents pour comprendre les biens fondés de faire étudier leurs enfants.
Bendera compte 12 écoles, dont seules 3 donnent des enseignements des humanités pédagogiques pour une population estimée à 33 000 âmes vivant dans 6 groupements ayant un total de 24 villages.
Si on nous a construit des écoles, c'est pour que ces enfants y fréquentent. Ça fait 4 ans que je suis ici. C'est maintenant, depuis 1960, que nous allons présenter la troisième promotion avec une telle section pédagogique. Il y a nécessité que l'on puisse mettre toutes nos énergies afin que les enfants puissent être orientés vers les structures scolaires. L'État puisse nous aider aussi à engager des enseignants qualifiés. Il y a aussi ce problème des enseignants qui ne sont pas payés. Demandons le concours de tout le monde.
François-Xavier Mibé, des retours de Bendera. Radio Capi.
Et pour finir, sachez que la ville de Kinshasa abrite depuis hier un atelier de mutualisation d'expérience entre les jeunes du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de la RDC sur le partage des expériences autour de la gouvernance démocratique et la citoyenneté. Cette rencontre de 3 jours vise notamment à identifier les bonnes pratiques de citoyenneté des jeunes pour un engagement plus actif dans la consolidation de la démocratie. Le représentant de la région de l'Est camerounais en a parlé à Radio Capi. Et pour Gaudens Ilunga, secrétaire exécutif du Conseil national de la jeunesse de la RDC, ce forum permet ainsi aux jeunes Africains de s'enrichir des expériences des uns et des autres. L'atelier de Kinshasa se tient avec l'appui financier et matériel du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Fin de ce journal à 7h10. Merci de l'avoir écouté.
Au capi, au capi, au capi.